On n'arrive plus à vivre, il faut être honnête, les augmentations débordent. On a des TVA partout, des taxes.
Avec 1200 euros et encore, je suis gentille, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Nous, on en a marre, on est en bas, on souffre, nos enfants souffrent. Et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête.
On a un bon slogan chez les Gilets jaunes. On est tous ensemble et on lâchera rien.
Gilets jaunes, où en est le mouvement? Une émission spéciale de Radio Plus, préparée et présentée par Julien Maille et Jean-Philippe Planck.
Deuxième et dernière partie de cette émission spéciale Gilets jaunes, où en est le mouvement, avec nos invités toujours autour de la table. Philippe Kemel, pour quelques minutes encore, puisque vous allez devoir nous quitter, vous êtes maire socialiste de Carvin et ancien député. À vos côtés, Kamel Benazouz, responsable fédéral du Parti communiste du Pas-de-Calais. Et puis, deux Gilets jaunes de Béthune sont avec nous. Frédéric Durier, qui est vendeur de pièces automobiles, et avec vous également, Hélène Laurent, qui est aide-soignante. Merci encore d'être avec nous à l'occasion de cette émission spéciale qui, je le rappelle, est en direct sur Radio Plus, en FM sur le 104.3, en DAB+, sur les récepteurs équipés et sur le www.radioplus.fr. On parlait dans la première partie d'émission des actions du gouvernement pour tenter de calmer la crise. On parlera du grand débat dans un instant, mais on avait une dernière question sur cette première thématique, Jean-Philippe.
Deux en réalité. Le gouvernement a mis en place des mesures pour, selon lui, donner un coup de pouce au pouvoir d'achat l'an dernier, hein, via la baisse de charges sociales, justement. Est-ce que vous l'avez peut-être d'ailleurs pu le constater sur vos propres fiches de salaire, hein, si vous nous écoutez. Est-ce que cette baisse a eu un effet selon vous? Et seconde question, cette baisse des charges n'est-elle pas, à terme, une menace pour le système social français?
Qui veut répondre en premier? Philippe Kemel.
Cette baisse a eu un effet mécanique de donner effectivement moins de 1,8%, je crois, d'augmentation de la rémunération. Mais en parallèle, comme on l'a dit, les taxes ont augmenté sur l'électricité, sur les carburants, etc. Sur le fond, les salariés n'y ont rien vu, puisqu'on a eu une augmentation du prix de l'ensemble des aliments et de l'énergie qui était bien supérieure. Donc le pouvoir d'achat, on l'a dit dans la précédente séquence, a diminué. Que cela pose des questions sur notamment l'assurance chômage, on en a le résultat. C'est-à-dire que les partenaires sociaux n'ont pas réussi, parce que l'équation est tellement compliquée, de trouver les solutions. Et en plus, ils se font moquer par le président de la République, qui ne croit pas, lui, à la véritable négociation entre les partenaires sociaux. On voit bien que ce mécano fiscal porté par le président Macron est un mécano qui déstabilise non seulement l'organisation et le pouvoir d'achat des salariés, mais en même temps, il déstabilise profondément le dialogue social. Donc, c'est un écartement de notre système social et de ses pratiques qui, à terme, peut poser beaucoup de difficultés, justement, dans cette capacité de développer de la négociation sociale en France.
Kamel Benazouz.
Oui, en fait, c'est un vieux serpent de mer, ça, quand même. Hein. Ça fait des années où on exonère les patrons. Moi, je parle pas de charges, mais de cotisations, parce qu'il y a des cotisations patronales et des cotisations salariales. Ça fait des années qu'on exonère le grand patronat de cotisations patronales. Est-ce que ça va mieux? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que ça a créé plus d'emplois? Je n'ai pas l'impression. Le problème avec ça, c'est que à force de faire des cadeaux comme ça, toujours aux plus riches, je fais une différence avec les petites entreprises, l'artisanat, les commerçants ou autres, c'est un tout autre domaine. Mais à force de faire des ponts comme ça d'or aux plus riches, qu'est-ce qu'on fait? Artificiellement, on casse la sécu, par exemple. En 1945, quand Ambroise Croizat, le ministre communiste, crée la Sécu, c'est dans un pays qui sort de la guerre, qui est complètement détruite, avec une économie à terre. Et on arrive à créer la Sécu, et à l'époque, il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Aujourd'hui, si on n'a pas de mutuelle, on ne peut pas se soigner, parce que la part Sécu s'est réduite à portion congrue. Mais voilà, ce mécanisme à chaque fois de baisser les charges, moi je suis pour qu'on taxe le capital. Ceux qui s'en mettent plein les poches de taxer ces grands patrons du CAC 40 qui, quand même, gagnent très très bien leur vie.
Frédéric, vous avez une position un peu plus nuancée là-dessus parce que vous êtes aussi vous-même, en quelque sorte, créateur d'entreprise.
Oui, mais c'est toujours pareil, c'est de petites structures.
petite structure.
Donc, nous, on a ouvert au mois d'avril avec l'ACRE, une aide d'exonération de charges la première année. Et on a quand même dû provisionner 1000 euros chacun auprès de l'URSSAF, alors que normalement, on n'aurait pas dû en payer. Donc ça, ça a pesé très lourd sur notre petite structure. Après, ouais, effectivement, au niveau des grands patrons, quand j'entends un monsieur comme Ghosn qui gagne plusieurs millions d'euros par mois, et qui, bon, là, il est accusé, on ne sait pas si c'est à tort ou pas, hein, mais d'avoir détourné de l'argent, et qu'on voit un mec qui travaille chez Renault à Douai, au SMIC, alors que lui, il s'en met, entre guillemets, plein les fouilles, alors. Tout est assujetti à un conseil d'administration où tout le monde est acquis à sa cause et compagnie. C'est comme le président, tout le monde est acquis à sa cause. Donc on retrouve dans la société de chez Renault ou d'autres sociétés le même schéma en fait qu'au gouvernement. On a toujours des gens acquis à la cause du patron qui va lui accorder beaucoup de privilèges pour s'en attribuer aussi, il a aussi l'astuce, pour au détriment de celui qui a la chaîne et qui va se crever le cul de 6h à 14h ou de 14h à 22h ou de 22h à 6h avec les week-ends et les jours fériés, tout ce qui s'ensuit, qui lui va être payé au SMIC avec quelques primes quand il fait des nuits ou des week-ends. Donc ça devrait être encadré, que ça soit dans le public comme dans le privé, que le patron, s'il veut gagner beaucoup, il augmente ses salariés.
Hélène, sur ce sujet?
Moi, je rejoins M. Kemel sur. Parce qu'au début, on est parti de la petite hausse sur les fiches de paye. Ok, on a eu une petite hausse, mais tout a augmenté à côté. Donc, je rejoins M. Kemel que, en fait, on n'a pas vu dans le porte-monnaie cette petite hausse parce que, même le timbre a encore augmenté cette année. Donc, tout augmente.
Alors, selon vous, le gouvernement joue-t-il un double jeu au travers d'une attitude d'écoute et d'ouverture? Je pense à l'organisation du grand débat dont on va parler juste après. Mais en même temps, à travers, d'une part, une forte répression avec les conséquences que l'on connaît, mais aussi avec des mesures comme la volonté d'économiser, on l'a évoqué juste avant, 3,9 milliards d'euros sur l'assurance chômage sur plusieurs années, de rendre la fonction publique plus flexible avec le recours élargi aux contractuels, c'est un autre exemple, ou encore en renforçant drastiquement les conditions permettant de manifester avec la loi anti-casseurs.
Eh ben, c'est un joli paquet cadeau, encore une fois. On ressort les vieilles recettes, donc on va taper sur les fonctionnaires, mais il suffit de regarder les salaires dans la fonction publique hospitalière, il suffit de regarder dans la fonction publique territoriale. À ce que je sache, aucun des travailleurs de ces secteurs-là ne sont assujettis à l'impôt sur la fortune quand il existait. Donc c'est encore une fois de la poudre de perlimpinpin. Et le gouvernement, comme d'habitude, ne s'attaque pas au vrai problème. Le problème de fond, c'est les salaires trop bas, trop bas, et les cadeaux faits toujours aux plus riches. Et d'opposer les fonctionnaires aux travailleurs du privé, c'est d'une débilité monumentale, parce qu'on est tous sur le même bateau, on est tous sur le même navire, et les galères, c'est exactement les mêmes pour les autres. Donc ça, c'est la vox populi, on va taper un peu sur les fonctionnaires, on va saupoudrer ici et là, sans vraiment changer le cours des choses. Mais bon, c'est la méthode Macron, on commence à en avoir l'habitude. Apparemment, il aurait dû faire Star Academy, il est bien plus doué dans ce domaine-là que dans la gestion du pays.
Après, ça fait quand même 40 ans où tous les représentants ont fait exactement la même chose. Donc, c'est pas forcément lui. Lui, il a récupéré une boule de pu et il en a remis une sacrée couche. C'est pour ça qu'il prend le mouvement en plein dans les dents, quoi.
Hélène.
Moi, je tiens à revenir aussi. On a tapé sur la SNCF.
Tout à fait. Oui,
on a su leur enlever des avantages. Et moi, je me dis, eux, ils attendent quoi pour toucher à leurs avantages avant de toucher à nos avantages? Parce que je pense que les petits avantages qu'on a ne sont pas égaux aux leurs. Parce que moi, personnellement, qui travaille dans les hôpitaux, on avait le droit à la chambre particulière, quand on faisait partie du personnel, qu'on était hospitalisé, on avait le droit à la chambre particulière gratuitement. C'est fini, on n'y a plus le droit. On avait le droit au bilan sanguin, enfin quand on avait des prises de sang, on montrait notre fiche de paye, c'était pris en charge. On n'y a plus le droit. Donc on nous supprime pas une chose, mais eux, pour le moment, ils suppriment pas leurs avantages. Donc je pense que s'ils commençaient par là, ça calmerait peut-être aussi un petit peu le peuple, parce que on n'a pas les mêmes avantages et pas les mêmes chiffres non plus.
Philippe Kemel.
Oui, sur les fonctionnaires, c'est une situation de diminution du salaire, puisque l'augmentation des prix, des salaires qui n'ont pas bougé, et ils n'ont pas bougé depuis de nombreuses années, avec en même temps une détérioration du service public, de la notion du service public, et même de l'acceptation du service public, je dirais, par l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Alors que il faut, me semble-t-il, à la fois réhabiliter le service public, et je dois te dire, je ne pourrais pas me prononcer parce que je vais devoir malheureusement vous quitter, que sur le référendum d'initiative citoyenne, qu'il faudrait sans doute modifier, aménager pour qu'il soit, je dirais, construit constitutionnellement, il me semble qu'un champ d'application de ce référendum, c'est le service public. Car il faut absolument que l'ensemble de la population s'empare de nouveau de la question du service public, qui est le moyen pour défendre celles et ceux qui sont en bas ou dans la classe moyenne de l'échelle sociale. Sans service public, eh bien, il y a de la fragilité et de la faiblesse. Et vous voyez dans les hôpitaux, à partir du moment où il y a l'affaiblissement de ce service public, alors là, les malades sont en danger, les familles sont inquiètes, et ceux qui sont fragiles, eh bien, peuvent effectivement se trouver dans la grande difficulté. Moi, dans ma commune, quand je vois les rémunérations de des salariés de la ville, qui font le boulot, qui travaillent bien, qui progressent même, dans la qualité que l'on apporte, parce que l'exigence collective est de plus en plus forte, et qu'on n'a pas les moyens de les rémunérer. On n'a pas les moyens de rémunérer parce que nos dotations ont diminué, et parce que, sur le fond, l'argent public dans les collectivités et dans les communes, c'est devenu vraiment au ras des pâquerettes. Et donc, on ne peut pas apporter les moyens, et en plus, les grilles qui ont été négociées sont, elles aussi, au ras des pâquerettes. Oui, là, on est dans la difficulté et il faut profiter de ce mouvement pour poser la question du service public, la question de la vraie valeur du service public et de la vraie rémunération de celles et ceux qui portent le service public.
Radio Plus, émission spéciale, Gilets jaunes, où en est le mouvement ? Et on va bien sûr remercier Philippe Kemel pour sa participation à son émission. Philippe Kemel qui va devoir nous quitter, pris par d'autres obligations. Mais en tout cas, encore une fois, merci Monsieur Kemel d'avoir été notre invité ce soir.
Merci de votre invitation.
Voilà, et au plaisir de vous recevoir, en tout cas peut-être sur d'autres opportunités de débat. Le débat, justement, il va en être question dans la suite de cette émission, le grand débat. Le grand débat national est une mesure phare d'Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes. L'objectif est, d'après lui et les membres du gouvernement, de permettre aux Français d'exprimer leur doléance, mais aussi, indirectement, de réapprendre aux élus et aux électeurs à se parler, puisque députés et ministres sont régulièrement sur le terrain pour participer à ces réunions publiques. Ainsi, à Béthune, c'est la députée LREM Marguerite Despréaux-Debert qui accueillait les débattants dans sa permanence. Reportage que l'on va retrouver dans quelques instants sur Radio Plus.
Alors, nous, ce qu'on proposait, c'était une réduction du nombre de parlementaires, donc déjà de députés. Donc, au lieu de 577, c'était de passer à 400 députés. Alors, par rapport à la proportionnelle, c'est que sur ces 400 députés, il y en a 25%, c'est-à-dire 100 députés qui soient élus à la proportionnelle, afin que tous les citoyens puissent être représentés.
Alors depuis le 4 février dernier, le grand débat est lancé à Béthune. Comment appréciez-vous la participation de la population à ce débat ?
Bah écoutez, je trouve que, en tout cas dans ma permanence, c'est assez dynamique. On sent que les gens avaient un besoin de s'exprimer, ils y prennent goût, ils reviennent. Et de parler entre eux aussi, d'échanger. C'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est non seulement ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin d'échanger. On sent qu'il y avait une sorte d'isolement et que les gens se retrouvent. Évidemment, il faudrait multiplier ça. Et moi, j'entends le renouveler chaque année, enfin, si possible.
Qu'est-ce qui est ressorti, selon vous, du débat de ce soir ?
Alors, vous savez, je suis neutre, donc j'accueille et puis je reviens à la restitution. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées, il y a du bon sens. Ça, ça me frappe. Et puis, une volonté d'être positif, d'être constructif. Donc ça, c'est intéressant.
Alors, le mouvement des Gilets jaunes a fêté, entre guillemets, hein, ses 3 mois d'existence. Les revendications n'ont pas tellement bougé, hein, sur notamment le pouvoir d'achat et d'autres sujets. Pensez-vous vraiment que les issues de ce grand débat national vont pouvoir répondre à la crise actuelle, qui semble quand même assez profonde?
La crise actuelle, elle est multiple. Donc, on pourra répondre par petites touches. On ne pourra pas avoir une seule réponse, ce n'est pas possible. Et ça prendra du temps. On ne pourra pas faire tout en 15 jours, ce n'est pas possible. Il faut être lucide et raisonnable. Mais on connaît la trajectoire, on sait où on veut aller. C'est déjà pas mal.
Alors, nous proposons que les sénateurs soient représentatifs de la société, donc c'est-à-dire élus par les maires, mais aussi élus par les entreprises, élus par des associations et aussi des citoyens tirés au sort.
Oui, bonjour, je m'appelle Léa Baudin, j'ai 31 ans, j'habite à Auchy-les-Mines, mais je suis commerçante à Béthune. Et voilà, j'ai voulu participer, j'étais présente ce soir pour la 3e fois, j'ai raté le premier, mais c'est la 3e série du grand débat à laquelle j'étais présente ce soir.
Pourquoi avez-vous souhaité participer à ce grand débat?
Déjà par curiosité. C'est vrai qu'on regarde parfois un peu de loin tout ce qui se passe dans le paysage politique. Et je me suis dit, là, on nous donne enfin la chance de nous exprimer. Donc au début, je ne pensais pas forcément m'exprimer à proprement parler. Je voulais voir un petit peu, je voulais écouter. Et puis après, on se prend au jeu. On voit des questions auxquelles finalement on a envie de répondre, sur des choses sur lesquelles on a des avis, on pense qu'on peut apporter quelque chose. Et ça, c'est super intéressant.
Alors de quoi avez-vous discuté ce soir?
Alors ce soir, c'était citoyenneté et démocratie. Donc on a discuté des institutions, la façon dont sont élus nos représentants, dont on pourrait les élire surtout, la façon de les rémunérer, la façon d'impliquer les citoyens dans la vie politique. Et moi, c'est ça vraiment qui m'intéresse, c'est d'impliquer les citoyens. Aujourd'hui, je pense que pour plein de raisons, on n'est pas toujours très impliqué parce que parfois, on est dans une ville, mais on pourrait être dans une autre, on déménage, on n'est pas très attaché à une ville en particulier parce que le fait est qu'on va en changer bientôt ou on ne sait pas trop pour combien de temps on est là. Donc je trouve ça intéressant que le citoyen puisse être impliqué au-delà de ses politiques parce que comme ça, quand il changera d'endroit, il pourra continuer à s'impliquer de la même façon. Même si son élu ne le représente pas, ce n'est pas grave, il peut continuer à s'impliquer. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin toujours d'un politique pour faire des choses et c'est ce qui est important de faire, quoi.
Est-ce que vous avez fait vous-même des propositions par rapport à ce débat, à cette réunion?
Moi, j'ai fait des propositions qui allaient dans le sens du jeunisme parce que je trouve que ce soir, comme dans la politique en général, les jeunes ne sont pas très très représentés. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne s'impliquent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les élus? En tout cas, je pense que les jeunes ont envie de s'investir, mais pas de la même façon qu'on pouvait le faire il y a quelques années. Par le vote peut-être, mais d'une autre façon, quoi. Et je pense qu'en leur redonnant en redonnant la parole, en créant d'autres types d'institutions, une chambre de citoyens où il y aurait plus de jeunes, plus de gens de tous horizons, on pourrait faire quelque chose de vraiment intéressant.
Voilà. Faut-il reconnaître le vote blanc? Faut-il rendre ce vote obligatoire? Si on considère le vote blanc, le vote est obligatoire, alors oui, il faut que le vote blanc soit pris en compte. Si le vote blanc est supérieur au vote des candidats, c'est-à-dire s'il y a plus de votes blancs que de votes pour le premier candidat, alors on revote, mais pour d'autres candidats. Alors on avait émis l'idée que les candidats qui font plus de 5% sont les seuls à pouvoir se représenter, mais que ceux qui font moins de 5% ne peuvent pas se représenter.
Moi, comme je vais voter et que même quand j'ai pas la possibilité, je trouve toujours une solution pour le faire, je comprends pas les gens qui votent pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre, mais par contre, le rendre obligatoire, oui, mais je pense que ça devrait tellement aller de soi que je ne comprends pas pourquoi on devrait le rendre obligatoire.
Parce qu'il y a un manque de participation.
Il y a un manque de participation, et du coup, c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on ne se reconnaît plus dans nos élus, parce qu'on on les a pas élus, en fait, on n'a pas été votés. Donc, est-ce que le rendre obligatoire, ça va les rendre plus légitimes? Je ne suis pas vraiment convaincue, mais en tout cas, le fait de tenir compte du vote blanc va peut-être mécaniquement inciter plus de gens à aller voter, et que du coup, l'élu devrait en tenir compte, devrait tenir compte de la proportion de vote blanc avec laquelle il a été élu pour gouverner ou pour constituer son gouvernement, pour constituer son comité de décision en tout cas.
Voilà pour ce reportage réalisé à Béthune le 18 février dernier. Julien.
Oui, et Hélène et Frédéric, vous souhaitiez réagir justement par rapport à ce qui est organisé à Béthune et notamment ce qui est encadré par Marguerite Després-Audebert.
Oui, parce que là, on a entendu un débat qu'elle a organisé le soir où nous, on avait été reçus, le midi, à notre demande, et nous n'avons pas été informés ni invités à ce rendez-vous le soir. Est-ce que nos questions en tant que Gilets jaunes allaient trop déranger? Est-ce que ça allait faire tâche au niveau des gens? Pour s'être rendu au vœu du maire, juste le fait d'avoir mis les Gilets jaunes, on n'était qu'à 2, tout serré, d'un secours, on a pu se mettre à 5, et on avait de la place. Je sais pas, c'est assez bizarre, malgré qu'elle nous a reçus le midi, qu'on n'ait pas été conviés le soir.
Alors visiblement, c'était sur inscription, hein, d'après ce que j'ai pu voir sur le site de la permanence de la députée, sur inscription du fait que c'était dans sa permanence et qu'il y avait apparemment qu'une vingtaine de places ou une trentaine de places.
Elle nous avait reçu à 5, on aurait au moins pu en envoyer un si elle nous avait informé, quoi.
Parce que là, il y a une dame dans le reportage qui dit pourquoi les Gilets jaunes ne sont pas là, pas représentés. Enfin, déjà, elle sait où est notre camp à Béthune, elle aurait déjà pu venir nous informer.
Il n'est pas très loin, d'ailleurs.
Voilà.
Et je peux le confirmer.
Donc, on n'est pas venu nous informer du débat, alors que je pense qu'on est les premiers concernés. À la base, s'il y a un grand débat, c'est aussi suite à notre mobilisation.
Alors c'est vrai qu'on a eu aussi l'occasion de diffuser ici sur Radio Plus un reportage autour d'une date du grand débat qui avait lieu du côté d'Arras, et le journaliste de Radio PFM qui était présent avait aussi constaté que les Gilets jaunes n'étaient pas les plus majoritaires dans ce grand débat. Pour vous, si je vous entends bien, c'est surtout que vous n'avez pas les invitations ?
Non, on n'a pas les invitations, surtout que la députée de Béthune, concrètement parlant, elle est un petit kilomètre du camp. Ce qu'on sait très bien, parce qu'on l'a fait à pied pour aller en soutenir un de nos gilets jaunes qui a fait une grève de la faim devant son bureau.
C'était le 5 février, je crois. Hein.
C'était le 5 février, effectivement, on s'est rendu à l'intégralité, je dirais, ou quasiment, des gilets jaunes qui avaient été faire la manifestation pour l'hôpital de Beuvry, où il y avait 83 postes ou 81 postes qui devaient
82.
Être supprimés, voilà. Et tout le monde, en fait, en sortant de l'hôpital de Beuvry, s'est rendu au QG et tous à pied s'est rendu devant chez madame la députée, où nous avons été accueillis par les services de police, ce qui est normal. Ce qui l'est un peu moins pour des gens qui sont très pacifistes, c'est d'avoir les policiers casqués, déjà armés des boucliers, et prêts à en découdre, alors que c'était tout bon enfant. On venait juste pour Saïd, pour ne pas le citer, en soutien de sa grève de la faim qu'il avait entamée la veille.
Alors on va bien sûr parler de ce grand débat qui est ouvert jusqu'au 15 mars, voire peut-être un peu plus tard, puisque France Info évoque la date du 18 mars. Un débat assez cadré, hein, puisque le nombre de thématiques abordées est limité à 4. Fiscalité, dépenses publiques, transition écologique, organisation de l'État et des services publics, et la transition écologique, je viens de le dire. Quel est votre avis sur ce grand débat? On va peut-être commencer du coup par Kamel Benazouz, qui n'a pas encore eu la parole.
Que dire de ce grand débat? Ça me fait hurler de rire, puisque en gros, quand c'est pas Macron, c'est des députés de La République En Marche ou des ministres qui se disent neutres. Bon, ben, qu'est-ce qu'ils foutent au pouvoir s'ils sont neutres? Deuxièmement, les invitations, c'est trié sur le volet, quand même. Je parle d'une initiative de mon ami et camarade maire d'Avion, qui, lors des vœux du maire, a adressé le net à Macron pour qu'il vienne. Venez rencontrer la population sans filtre. Venez rencontrer la population. Et cette lettre, il l'a fait signer par des milliers d'avionnais. Donc pour l'instant, je pense que le courrier est en bas d'une pile, puisque le président de la République ou autre n'ont pas répondu. En fait, ça dénote bien. C'est la volonté du gouvernement et du chef de l'État, c'est de dire venez dans les débats, je choisis qui vient, mais allez, vous allez m'écouter, et puis c'est moi qui fixe les choses. Là, on ne parle plus de l'ISF. On parle plus du pouvoir d'achat. Moi, je veux bien les institutions. Oui, effectivement, il va falloir qu'on sorte de cette 5e République, parce que pour moi, c'est une monarchie. Je la combats. Mais la priorité tout de suite, c'est pas la question des institutions. Hein. C'est quand même la question du pouvoir d'achat. Et puis les gens qui en peuvent plus parce qu'ils n'arrivent plus à vivre. Les institutions, il va falloir qu'on y travaille de fond en comble et de faire en sorte qu'on n'ait plus un sorte de monarque qui a un pouvoir formidable, qui concentre plein de pouvoir entre ses mains. Voilà, donc est-ce que la montagne va coucher d'une souris? Je pense que oui, et je pense qu'on ne pourra pas prendre et les gilets jaunes et toutes celles et tous ceux qui se battent pour des cons encore longtemps, parce que les questions essentielles qui sont posées, elles ne sont pas retranscrites dans le grand débat.
Est-ce que vous en attendez tout de même quelque chose de ce débat? Parce que bon, malgré le cadre imposé, il n'y a pas que des choses inintéressantes, on a pu l'entendre, pas forcément des choses qui vont dans le sens du gouvernement. Hein. Si on regarde les contributions, bon, il y en a quand même 1 million de contributions sur le site du Grand Débat National. 3% de la population qui participe, bon, ça représente 2 millions de Français, ce n'est pas rien, ça n'est pas non plus, ça ne prend pas non plus la parade d'une grande vague démocratique. Est-ce que tout de même il y a des choses à en tirer?
Pour ma part, je pense que non. Dans la mesure où tous ces débats sont faits avec la quasi-totalité du temps, des sujets bien précis, des questions quasi choisies à l'avance,
vous auriez préféré et des réponses toutes cadre, faites, en fait. Vous auriez préféré aucun cadre, que ça puisse être...
Question libre, question ouverte, afin qu'on on puisse justement répondre à l'intégralité des questions de tout à chacun.
Bah, qui reprennent peut-être aussi les points des Gilets jaunes, tout simplement. Prendre nos revendications et non pas... là, il ne reprend pas nos revendications. Et il fait du... Quand on le voit dans un débat, il fait du Macron show. Voilà, je suis désolée.
Hein, justement, au niveau des Gilets jaunes de Béthune, vous avez fait une sorte de sondage aussi pour savoir quelles étaient les revendications qui revenaient en tête. On va peut-être pouvoir en parler. Des revendications qui, je le vois, sont très très variées et qui vont des questions justement de transition écologique jusqu'à la réduction significative des membres, des salaires des membres du gouvernement, ou encore la fin des indemnités présidentielles pour les anciens présidents. Plein de choses qui sont variées. Comme ça, expliquez-nous justement, vous, ce que vous avez fait comme initiative pour faire remonter des doléances.
Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé les questions à des automobilistes, des gens de passage dans le camp, etc. On en a ressorti des chiffres qui sont tout bêtes. Hein,
à un certain nombre de personnes
et sur Internet, oui. Un certain nombre de personnes répondent, suivant s'il dit s'il est pour ou s'il est contre. On a vite fait d'avoir un pourcentage. Ce qui fait que là, on a bon nombre de questions. Le SMIC à 1 300 € net, 93% de pour. Pas de retraite en dessous de 1 300 €, 88% de pour. Les salaires, les retraites, les allocations de tous doivent être indexés à l'inflation, ce qui c'est tout à fait normalement logique, à 99% pour. Le salaire maximal fixé à 15 000 € par mois, 76% des gens étaient pour. L'augmentation des allocations handicapées, on est à 83% pour. Plus de tranches d'impôts, 68% pour. 14 au lieu de 5 maintenant. Le salaire médian pour les représentants élus, c'est 62% de gens qui sont pour. Fameux salaire médian qui, à l'heure actuelle, est de 1 700 €. Donc, si on veut augmenter le foutu salaire médian pour qu'eux, ils puissent se graisser les mains, eh ben, qu'ils nous augmentent et ils pourront s'augmenter aussi. Parce que c'est assez facile de voter entre eux.
Le véritable financement de la dépense des personnes âgées, qui est pour à 83%. La baisse du pourcentage de toutes les taxes sur les produits et services de première nécessité, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité, l'alimentation et les carburants, à 94% pour. Il y a des points où quand on a vu la députée, on nous a dit qu'il y a des points qui étaient déjà... Mais fin du CICE, à voir, c'est déjà fait.
Non.
C'est ce qu'on nous a répondu. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas tout non plus, on n'est pas expert dans tout ça. Hein, mais voilà, c'est ce qu'on nous a dit quand on a été... Oh, mais c'est fini. Bon. Rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, là on a 100% de pour.
Là on a à toc là.
On va peut-être que Julien aura l'occasion de vérifier l'histoire du CICE effectivement. Toutes ces mesures que vous citez, évidemment il faut les financer. Et ça, c'est la question qui va toujours revenir. Forcément.
Ça, c'est marrant, ça.
Forcément. Alors, comment, par exemple, vous imaginez le financement de ces mesures ? Et peut-être que Kamel Benazouz pourra aussi répondre à cette question.
Une des choses, c'est qu'on faut changer de logique économique, hein, mais je le dis, mais ça fait des années que ça dure. C'est des exonérations fiscales pour les grands groupes, c'est toujours plus de pression fiscale dans le même temps pour les travailleurs, le reste. Donc il faut changer de logique. Quand on fait des cadeaux aux grandes entreprises, on a forcément la grande contrepartie. Hein. Cet argent, il passe dans des cadeaux. Par exemple, je vais prendre le cas chez Auchan. Il a reçu des millions d'euros du CICE alors qu'il n'en avait pas besoin et qu'il ne l'avait pas demandé. Donc voilà, on donne toujours aux plus riches. Et pourquoi faire ces, dans ces ICE, il y a aussi emploi. C'était censé créer des emplois. Ils n'en arrivent pas. D'ailleurs, même Auchan prévoit d'ouvrir des magasins sans caissière et sans personnel. Voilà, comme ça, on sortira du magasin. Voilà. On fermera la lumière, puis on fera le ménage nous-mêmes, tout en payant bien nos courses de plus en plus cher. Mais je pense que c'est une réorientation profonde de l'économie qu'il faut opérer. En gros, moi, ce que je dis, c'est il faut que les petits payent petits et que les gros payent gros. Au-dessus de 100 000 euros, on rafle 80%. Il leur restera 20 000 euros pour vivre. Il y en a qui arrivent à bien vivre avec des minima sociaux ou un SMIG tout maigrelet. Ça, c'est possible. Et il faut relancer l'économie en augmentant les salaires. Le SMIC à 1800 euros et des retraites dignes avec une augmentation de 200 euros, c'est possible. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire, ce pays regorge de pognon. Et d'ailleurs, il y a des exilés fiscaux qui reviennent et qui sont en disant « chic chic, on est en train de nous faire des cadeaux ». Et aujourd'hui, vaut mieux habiter en France qu'en Suisse. Voilà.
Alors pour répondre à la remarque qui a été faite sur le CICE, effectivement ça a bien été supprimé courant janvier 2019, supprimé est peut-être un peu fort, ça a été transformé, alors je vais vous dire ça, on est en train de rechercher en direct, transformé en réduction de charges patronales, justement, une réduction des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, voilà, pour être précis.
Donc, encore une fois, on a fait des gros cadeaux aux riches patrons en faisant des réductions et eux, ils vont pouvoir avoir plus de dividendes et compagnie et compagnie. Et c'est toujours les actionnaires qui vont bénéficier de tout ça et non le salarié.
Et on parle de l'optimisation fiscale non plus. On l'a évoqué tout à l'heure, bien sûr, avec la fraude fiscale, mais effectivement, c'est une des clés, cette lutte contre l'évasion fiscale qui se pratique, notamment pas très loin, hein, même en Belgique.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les députés communistes avec Fabien Roussel en tête sont là-dessus. Ils ont fait déposer des propositions de loi pour taper sur cette évasion fiscale qui se passe devant nos yeux avec la complicité totale du gouvernement. C'est plus de 100 milliards d'euros. C'est énorme, énorme, énorme. Et ça pèse lourdement pour le pays. Et puis, cet argent qui part, il part dans les paradis fiscaux. Donc, les riches sont plus riches. Et puis, pour nous, c'est des queues de cerises.
Julien. Et pour terminer, sur la bascule du CICE en baisse permanente de charges, Bercy affirme que ça créera jusqu'à 100 000 emplois et un surplus de croissance de 0,2% du PIB d'ici 2021.
Sur papier, tout est toujours facile.
Hélène, vous souhaitiez réagir par rapport à cette question.
On peut la re...
Oui, justement, par rapport justement au coût de toutes ces mesures que vous avez évoquées, au financement, à leur financement.
Bah, après, y a aussi les avantages des élus où nous, on a fait un peu de recherche.
Et y a peut-être... On a quand même travaillé un petit peu avant de venir. Hein.
Ah ben, nous aussi, bravo.
Et il y a peut-être des choses aussi où on peut... par exemple, les retraites des anciens présidents.
Mmh. Parlons-en, tiens, un petit peu.
Ou, les anciens présidents... Alors, comme monsieur, par exemple, monsieur Hollande, retraite 15 000 euros par mois. Mais il y a aussi des autres avantages. Un bureau avec appartement, des employés de maison, des gardiens de la paix, une voiture avec des chauffeurs, des gardes du corps... Un directeur de cabinet, des secrétaires, un employé des archives, trois secrétaires sténodactylo, un gardiennage par les gendarmes pour leur propriété privée et six gendarmes et policiers pour leur service de sécurité.
Et tout ça, ça coûte combien ? Bizarrement, dans l'opacité de l'État, on n'en sait rien.
Vous vous rendez compte ce qui coûte Giscard d'Estaing depuis le temps qu'il est plus président ?
Mais alors, on n'avait pas les chiffres ?
Alors, monsieur Giscard d'Estaing, il nous coûte 3,9 millions d'euros par an.
Le pauvre.
Connu.
Le pauvre. Connu. Toujours. Connu.
Connu. C'est toujours connu parce qu'il a les mêmes avantages que monsieur Hollande, monsieur Sarkozy, monsieur Chirac.
Tout à fait.
Bon, on va pas leur souhaiter de mourir, hein, mais bon. Quand je vois la retraite de monsieur Hollande, on n'arrête pas de nous parler du non-cumul. S'il atteint 15 000 euros, c'est qu'il a 5 184 euros en tant qu'ancien président. Il a 6 208 euros en tant que ex-député de Corrèze. Il a 3 473 € en tant qu'ancien conseiller de la Cour des comptes. Il y a 235 €. Bon là, c'était un petit peu d'argent de poche. Hein. En tant qu'ancien président du conseil régional de Corrèze. Des appartements de fonction meublés, équipés, quand même, ce garçon. Deux personnes affectées à son service en permanence. Les voitures avec chauffeur, les policiers, ses 7 collaborateurs. Parce que il travaille tellement, maintenant qu'il est plus président... C'est à croire qu'ils ne travaillent pas quand ils le sont. Ils travaillent tellement quand ils ne le sont plus qu'ils ont besoin de collaborateurs, dites donc.
Alors, effectivement, donc ces chiffres effectivement édifiants qu'on aura aussi sans doute l'occasion de revérifier, de checker, bien
et
sûr.
De recommander dans d'autres, effectivement, dans d'autres programmes. On va continuer, bien sûr, sur ce qui fait aussi débat et ce qui est aussi une revendication des Gilets jaunes. C'est ce fameux RIC. Le référendum d'initiative citoyenne, Jean-Philippe.
Oui, alors le RIC, justement, qui est une des revendications hein, des Gilets jaunes, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, hein, vous qui soutenez justement cette revendication, ce dont il s'agit, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien?
Alors, le RIC, c'est à partir d'un certain nombre de signatures concernant une demande du peuple. On doit être en mesure d'organiser plusieurs choses. Alors, après, les seuils de signatures divergent d'un QG à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'une région à l'autre. Mais l'idée, c'est de... Si le peuple a arrivé à un certain niveau de signature... va engager une discussion auprès des instances de nos élus, que ça soit députés ou sénateurs. À un niveau supérieur de signature, ben ça sera un débat. Ils vont devoir travailler deux fois plus. On va enfin les fatiguer. Ça leur fera du bien un petit peu. Et à un niveau de signature supérieur, oh bordel, là on tombe carrément sur un projet de loi. Voilà, ils vont devoir travailler trois fois plus. Au moins ils mériteront leur salaire peut-être. Donc voilà, le RIC, c'est ça, c'est inciter nos élus à débattre d'un sujet qui est cher pour le peuple, suivant un certain nombre de signatures, un certain degré d'implication des élus. Après, on sait que tous les députés, juste comme ça, parce que comme on a été reçu par la députée, on sait pourquoi maintenant tous les députés votent pas les lois, parce qu'ils sont pas tous dans le même domaine de compétences. Donc, y en a qu'un qui va sur un groupe, parce que y a que lui qui est compétent dans ce domaine, et puis les autres, ils disent moi je suis d'accord avec toi. En gros, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, c'est pour ça qu'on vote des lois à 3 h au matin, à 30 dans l'hémicycle, au lieu de les avoir les 500 qui seraient enfin payés à être leurs fesses, excusez-moi de l'expression, leur cul dans l'hémicycle.
Alors il y a un problème aussi de rythme parlementaire, hein, puisque effectivement c'était, je pense, à un moment donné, du lundi au dimanche inclus, sans quasiment pause. Hein.
Bon, enfin, un député au 1er janvier 2019, il touche déjà 5 715,43 € net par mois hors indemnité spéciale. Je pense qu'il peut quand même travailler 7 jours. Moi, j'ai ma femme qui travaille du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre au CEF de Bruay, avec des jeunes très difficiles, et elle n'est pas payée ce prix-là.
Kamel Ménazos, comment vous réagissez par rapport à ces propos ?
Moi, je suis assez tranquille sur ces choses-là, parce que c'est une chose qui n'est pas peut-être assez connue, mais on a une particularité au Parti communiste, c'est que nos élus, nos députés, nos sénateurs ne gardent pas leur indemnité pour eux. On considère que ce n'est pas un salaire, c'est une fonction d'être élu. Que l'on soit maire, que l'on soit simple conseiller municipal ou autre, d'ailleurs un conseiller municipal ne touche rien, mais nos députés et nos sénateurs reversent leurs indemnités au Parti communiste, et donc c'est pas un salaire, ils font pas carrière dedans. Deuxième chose, sur l'histoire des députés, oui, il y a une marque de fabrique des députés de La République En Marche, hein, c'est les députés Playmobil. Ils lèvent le bras quand on leur demande de lever, mais poursuivre de près mon camarade Alain Brunel dans le Loisy ou Fabien Roussel dans le Valenciennois, oui, ils sont sur les routes 7 jours sur 7, et c'est des mobilisations à la porte des entreprises, à la porte des hôpitaux, c'est le soutien aux Gilets jaunes, c'est le soutien à toutes les batailles.
Kamel Ménazos, ça commence quand même à se fissurer un petit peu au niveau de la majorité. On voit qu'il y a une cinquantaine de députés, par exemple, qui n'ont pas souhaité voter, qui se sont abstenus sur justement la loi anti-casseurs.
Bah, il y en a qui se sont souvenus, qui peut-être avant avaient une fibre de gauche, et puis ils ont rejoint Macron, puis ils ont peut-être eu un rappel de mémoire de là où ils venaient. Mais majoritairement, c'est le petit doigt sur la couture du pantalon. Voilà, c'est la marque de fabrique de la République en marche. Hein. Macron décide, les autres appliquent.
Alors, le RIC a été porté par l'Assemblée nationale, par le groupe parlementaire de la France insoumise. Proposition de loi rejetée. Est-ce que vous le regrettez ?
Bah oui, parce que je pense que le peuple a besoin d'être interrogé aussi sur certaines lois. Et que, alors je ne dis pas qu'on peut avoir le mot sur tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on est tout à fait capable de pouvoir dire oui, on veut ou on veut pas. Sauf que quand on a eu un référendum sur l'euro, il y a quelques années, on n'en voulait pas. Et qu'est-ce que ça a fait ? C'est passé quand même.
On nous a volé notre vote.
Donc, si c'est pour faire des référendums, mais pas être écouté, ça sert à rien du tout. Ce qu'on veut, c'est que s'il y a un référendum sur quelque chose qui passe, si par exemple c'est non à même ne serait-ce que 52%, et bien si c'est non, c'est non, et ça passe pas.
Et même si c'est comme l'élection de M. Macron, avec seulement 20% de la population qui vote.
Julien.
Est-ce que le RIC, et la question s'était posée, et notamment Fabien Roussel du Parti communiste avait donné son avis là-dessus, est-ce que le RIC doit servir à revenir sur des acquis, peut servir à revenir sur des acquis, la peine de mort, le mariage homosexuel, des choses qui ont été votées ?
C'est pas ce qu'avait dit Fabien.
Non,
c'était sur RMC.
Il a dit qu'il fallait qu'il revienne, pardon. Je vais reprendre. Il a dit que les référendums d'initiative citoyenne pouvaient avoir lieu sur tous les sujets et pourquoi pas sur la peine de mort si les Français le demandent. Après, il y a peut-être d'autres précisions à nous apporter, Kamel Benazouz.
Fabien, il s'est pris les pieds dans le tapis ce jour-là, puis après, il l'a reconnu dans un communiqué. Mais notre position, elle est simple là-dessus. Oui au référendum d'initiative citoyenne, si c'est pour aller à la conquête de nouveaux droits. Pour aller à la conquête de nouveaux droits. Et une des choses principales, je pense, ce serait de poser la question en grand, êtes-vous pour ou contre l'impôt de solidarité sur la fortune ? Deuxième question essentielle, l'augmentation du SMIC, parce que c'est une chose, et l'augmentation générale des salaires, parce que c'est une chose qui taraude la France entière, et notamment dans notre région. Voilà, il y a toute une série de sujets, et puis après, il y a les institutions, je pense que, voilà, il va falloir un jour en discuter pour sortir de cette monarchie. Mais voilà, mais il faut y aller parce que l'arrogance et le mépris du pouvoir vis-à-vis du peuple, ça suffit. Il y en a ras-le-bol. Va falloir écouter. Et celles et ceux qui sont manettes du gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, mais ils sont hors sol. Ils ne touchent plus terre.
Hélène et Frédéric, l'ISF, c'est la première question à poser si le RIC était adopté demain.
Ça serait quoi la première question ?
La première question, je veux dire, c'est un peu toutes les premières questions, tout ce qu'on demande, c'est
il faudra bien un début si cette revendication est acceptée.
Alors la question 1A.
Non, mais maintenant, c'est vrai que cette ISF, si nous on gagne rien derrière, il ne va servir à rien. Faut être clair. On remet l'ISF. Si nous on est toujours dans la misère.
S'il n'y a pas d'investissement derrière.
Si nous on est toujours dans la misère, ça ne sert à rien d'avoir l'ISF. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu compliqué. Les deux premières questions, c'est le retour de l'ISF et l'augmentation de notre pouvoir d'achat. Soit cette ISF sert à baisser le coût des choses, ou alors à nous augmenter nous. Mais à un moment donné, voilà, c'est vraiment les deux premières questions.
Est-ce que le RIC, plus largement, pourrait redonner du souffle à la démocratie et, quelque part, permettre aux citoyens de s'approprier, justement, le politique ?
Totalement. Totalement, ça servirait, justement, aux Français de se réapproprier la France. J'aime dire cette phrase, parce que, quelque part, ils seront vraiment décisionnaires de certaines choses, en se manifestant, en signant une pétition. Ils pourront se dire, voilà, j'ai contribué à faire changer quelque chose. Et ça pourra aussi, dans le meilleur des mondes, hein, on rêve toujours que le monde est beau, le monde est gentil, mais dans le meilleur des mondes, ça pourrait aussi faire revenir sur certains acquis honteux de certains grands élus.
Voilà, et c'est ça qui aussi a éloigné, je pense.
Ah bah c'est ce qui leur fait peur.
Beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens de la politique, ces avantages des élus que vous dénoncez.
C'est ça, c'est que quand on voit tous les avantages, enfin c'est colossal. À l'heure actuelle, un député a 308,19 € par mois pour la garde de son enfant de moins de 3 ans. Nous, en tant que salariés, on n'a pas autant. Pourquoi voilà. Eux, pas nous?
Alors il me semble qu'il y avait un article de nos confrères du Parisien là-dessus, avec un certain nombre de mesures qui existaient davantage et des mesures qui ont été aussi supprimées tout récemment. Voilà. Voilà. Je passe l'info bien sûr aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent.
Oui, alors on va continuer aussi à parler justement des initiatives menées par les Gilets jaunes. On a parlé de ce RIC. Il y a aussi le vrai débat. C'est une initiative qui a été portée par des Gilets jaunes initialement de l'île de la Réunion et des régions PACA, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Bretagne, qui a été portée en décembre dernier, qui vise à permettre d'aborder des thématiques non évoquées dans ce grand débat national qui est porté, lui, par le gouvernement. Alors pour la petite info, la plateforme qui accueille le site internet du Vrai Débat est techniquement maintenue par le même prestataire que la plateforme du Grand Débat. Il y a aussi des initiatives locales qui sont menées. Il y a ce soir un débat au Chilimine qui a démarré à 18h. Il y a les petits sondages là que vous avez menés, Frédéric et Hélène, avec les Gilets jaunes de Béthune, auprès des citoyens que vous avez rencontrés. Les Français n'ont plus du tout confiance dans leur politique. Et comment est-ce qu'on se réconcilie avec les politiques aujourd'hui?
Je dirais les Français, c'est surtout les gens qui sont gilets jaunes ou qui gravitent autour, ont pris conscience que ces politiques se servaient eux et nous desservaient nous. Donc après, réconcilier avec ça, il faudra qu'ils montent patte blanche pendant un bon moment, parce que ça fait quand même 40 ans, excusez-moi l'expression, qu'ils nous prennent pour des cons. Et il y en avait un qui l'avait bien dit, il y a de ça plus de 30 ans, c'était Coluche. Et on est dans un truc, la pyramide. Le mec qui est en haut, lui, il s'en fout. Et nous, on est tout en bas, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on remue, la merde, l'odeur de merde, il faut qu'elle monte pour dire que celui qui est en haut, ils disent merde, qu'est-ce qui se passe? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Il faudrait leur en rendre un peu. C'est ce que Coluche disait il y a plus de 30 ans, et c'est encore vrai aujourd'hui.
Qui souhaite réagir?
Oui, moi, sur cette question-là. Je connais un paquet d'élus, qui ne sont pas que communistes d'ailleurs, et qui donnent et qui mouillent leur chemise et leur mandat leur coûte plus cher que ce qui ne leur revient. Là, on parle de séries d'affaires qui ont égratigné, oui, entre guillemets, le monde politique, mais auquel j'appartiens pas, parce que j'appartiens pas à ce monde politique. Si je me suis engagé en politique, c'est pour faire bouger les choses. Et les élus sont confrontés aussi à des problèmes, et tous n'ont pas des privilèges comme Giscard, etc. Mais avant, ces gens-là avaient déjà un vrai patrimoine, etc. Ils viennent pas du peuple. Moi, ce qui me pousse à me battre, c'est il faut que le peuple fasse irruption dans la politique. On a un taux d'abstention qui est trop fort dans ce pays. Oui, il suffit d'une voix pour être élu. Macron, il a été élu par défaut parce que les gens sont restés à la maison. Après, moi, j'ai fait le choix. Je suis allé voter. Je me suis battu. C'est pas le résultat, mais je continue à me battre. Et je pense que la patience, c'est une vertu révolutionnaire. Et potentiellement, en France, tout le monde est en capacité de mettre un gilet jaune. Voilà. Tout le monde est en capacité de porter un gilet jaune. Et je pense que ce mouvement, avec sa participation en hausse, en baisse, elle dénote quelque chose. C'est un vrai ras-le-bol. Et pour réconcilier la politique, il faut s'en mêler. Et il ne faut pas laisser celles et ceux qui nous disent, en gros, on est des singes savants, nous on sait, taisez-vous, et on va vous expliquer, vous n'avez pas compris. Il faut renverser la table et reprendre le pouvoir, nous, le peuple.
Mais c'est pour ça aussi que je pense que le RIC peut être pas mal, parce qu'on ne vote pas pour quelqu'un, mais pour des idées. Et le problème, c'est que là, s'il y a des Français qui ne se bougent plus, je pense, alors moi j'ai toujours voté depuis que je suis majeure, mais je pense que s'il y en a qui ne se bougent plus, c'est parce qu'ils votent pour quelqu'un, et on sait très bien que quand la personne va passer, il n'y a rien qui changera. Alors que là, si on a le RIC qui passe, par exemple, on va nous demander l'avis sur quelque chose, on pourra dire oui, on veut ou on ne veut pas, mais maintenant, il faut l'appliquer derrière.
Est-ce qu'une mesure qui est souvent évoquée dans les débats, qu'on peut suivre, que ce soit sur le grand débat ou sur le vrai débat, peu importe, le vote obligatoire avec prise en compte du vote blanc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle?
Si vous prenez en compte le vote blanc, le vote obligatoire va de pair. Maintenant, vous faites quoi, celui qui ne va pas voter? vous le sanctionnez financièrement, ou il arrive déjà pas à
finir cette amende. En Belgique, c'est une amende.
Ouais.
Mais après, s'il faut en arriver là pour que vraiment les Français se réapproprient la politique en ayant ce RIC aussi, parce que c'est le vote obligatoire et la prise en compte du vote blanc sans le RIC, ça va pas changer grand chose. Donc si tout va, ce trio arrive à faire son petit bout de chemin, ça peut être intéressant et ça permettra vraiment aux gens de s'exprimer. Quand ils en ont vraiment marre, ils voteront blanc ou ils voteront... Voilà, et ça permettra
Mais il faut qu'on tienne compte du vote blanc. Moi, je pense que oui, parce qu'à l'heure actuelle, M. Macron ne serait pas à la tête de la France.
Alors, des Gilets jaunes sont à l'initiative de trois listes aux prochaines élections européennes. Le ralliement d'Initiative citoyenne, qui a fait couler beaucoup d'encre, l'Union jaune et le Rassemblement des Gilets jaunes citoyens. Que pensez-vous de ces tentatives de prolongation politique ?
Il y en a un qui est tenu par des gens qui ont fait campagne pour M. Macron.
D'ailleurs, il s'est retiré de la liste, d'ailleurs.
Après, il y en a un qui est tenu par un chanteur qui s'appelle Francis Lalanne, qui est venu chez nous. Mais avec certains coéquipiers, si je peux me permettre de parler comme ça, qui sont un peu...
Quand ils viennent sur le camp des Gilets jaunes, ils ne parlent que politique. Alors, on n'arrête pas de... Malheureusement, on ne veut plus le voir à Béthune, cette personne en particulier que je ne citerai pas le nom. Parce qu'il vient et il parle politique. On dit, on n'est pas là pour parler politique. On n'est pas là pour ça. On ne veut pas. On a chacun nos idées. Chacun a ses idées. On ne souhaite pas exprimer. Enfin, voilà. C'est chacun sa partie.
C'est vous tenez toujours effectivement à ce côté entre guillemets apolitique, même les thématiques politiques elles sont abordées finalement
en plein cœur.
Le fait d'être apolitique est déjà une politique en soi.
Mais
ça va.
Mais donc ce monsieur, par exemple, qui fait partie de la liste à M. Lalanne, ne fait que parler politique. Mais on lui dit, vous n'avez rien compris à notre mouvement dans ce cas-là. Et ce monsieur, entre guillemets, est un ex-politique de Béthune, donc.
Mais sauf qu'il le dit avec virulence, agressivité, c'est pour ça qu'on n'en veut plus. C'est pas parce qu'il fait partie de la liste de M. Lalanne. C'est parce qu'à plusieurs reprises, il nous a...
agressé
verbalement, poussé physiquement. C'est une personne déjà de 72 ans. À un moment donné, on reste des êtres humains. S'il va trop loin, ça peut pas aller. Donc,
alors, le sens de ma question, c'est quelle prolongation politique, puisque
de prolongation politique, c'est ça le problème. Déjà là, vous nous dites trois listes. Oui. Nous, notre mot d'ordre, c'est l'union fait la force. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Trois listes.
Oui, trois listes.
Excusez-moi.
Il y en a déjà trop.
Alors, entre guillemets, on est gilets jaunes. On va faire quoi ? Donc, toi, tu votes pour cette liste-là. Moi, je vote pour cette liste-là. Et toi, tu votes. Non, on en veut. Déjà, on n'en veut pas. Et s'il y avait une liste gilets jaunes, il n'en faut qu'une, et pas trois déjà, parce que déjà, on va diviser les voix. Et moi, personnellement, mon point de vue, c'est qu'on n'a pas fait d'études non plus pour faire de la politique. Moi, je ne me prétends pas pouvoir partir en politique. Maintenant, ce que je me prétends française et avoir le droit de défendre mes droits.
Est-ce que ça, ce n'est pas justement laisser la politique à des professionnels ?
Après, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de savoir dans certaines lois, je pense qu'on peut pas non plus,
Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes n'interroge pas justement cela ?
On interroge notre façon de vivre, on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, donc on veut dire on peut plus vivre comme ça. Maintenant, on remet pas non plus tout en cause. Mais moi, je dis pas, ces gens ont quand même fait des études, etc. Enfin, il faut pas le nier. Moi, personnellement, j'ai fait des études d'aide-soignante. Je peux pas me prétendre partir en politique et je connais pas tout. Enfin, il faut un minimum de savoir, je pense. Enfin, après, c'est peut-être mon avis. Mais...
Alors, il reste une minute.
J'ai pas fait d'études pour faire de la politique. Je me suis engagé en politique. Et puis, c'est ouvrir des bouquins, c'est discuter, être dans l'action. Oui, il y en a qui font Sciences Po, l'ENA pour ça. D'ailleurs, on les retrouve au gouvernement. Mais les camarades que je connais, les maires Coco, ils sont pas passés par ces écoles-là. C'est l'école de la vie.
Merci.
Frédéric,
très rapidement.
Je lis beaucoup.
Moi, justement, j'invite tous les gens de la politique à venir nous voir, à nous expliquer vraiment les choses pour que justement on puisse mieux la comprendre, cette politique.
Voilà, le message est passé.
D'accord,
et ça
message
sera
reçu.
Le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été présents. Merci également à Philippe Kemel qui nous a accompagné sur la première partie de l'émission. Merci Kamel Benazouz, responsable fédéral du Parti communiste du Pas-de-Calais.
Merci à vous.
Merci à Frédéric Durier et à Hélène Laurent Gilet Jaune du QG de Béthune. Cette émission sera disponible en podcast très vite sur notre site radioplus.fr. Tout de suite, la suite de vos programmes. On va se détendre avec une playlist sketch et musique sur Radio Plus. Très belle fin de soirée à tous.